Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur.
Vous allez voir arriver Botechia, ex-maçon dans le Frioul. Botechia ne vous regardera pas avec ses yeux, mais seulement avec le bout de son nez. Et le bout de son nez est avenant, comme une lame de couteau.
Ottavio Botechia, c'est le pionnier. Le tout premier cycliste italien à avoir remporté le Tour de France édition 1924. Depuis, ils ne sont pas si nombreux. 6 autres lui ont succédé, 7 vainqueurs au total, qui les uns après les autres racontent une histoire de l'Italie au XXe siècle. Une histoire à travers ce sport si populaire au-delà des Alpes, sans doute parce que le vélo, l'objet, occupe une place à part dans le cœur des Italiens. Au programme ce soir, deux invités au micro d'Inter, donc, pour nous conter l'épopée des cyclistes italiens sur le Tour de France. Écrivain, journaliste et grand amateur de cyclisme, il est venu à vélo ce soir. Éric Fotorino, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Je précise qu'on trouve en kiosque un hors-série extra du 1, consacré aux grimpeurs de légende. À vos côtés, il est historien de l'Italie, il s'apprête à faire sa rentrée à Paris 1. Il a son rond de serviette à cette table. Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à toi aussi. Et puis juste avant, le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, le club anglais de Leeds United, véritable usine à tubes. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, les cyclistes italiens sur la grande boucle.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, chaque semaine, dorénavant, nous débutons cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique qui sévissait sur les ondes de l'ORTF dans les années 50. Le sport à la maison pour les auditeurs et les auditrices. Ce soir, le professeur Robert Reynaud vous propose de travailler vos épaules et vos pectoraux. Vous allez faire le moulin avant, tout un programme.
Maintenant, c'est un exercice de bras. C'est le moulin avant. Vous effectuez avec les bras. Vous imitez avec les bras le mouvement des ailes du moulin avant, exactement. Vous levez d'abord le bras droit tendu en avant, vous l'amenez jusqu'à la verticale, et attention, maintenant, ils demeurent tous deux dans le prolongement l'un de l'autre, pendant que le bras droit descend en arrière, c'est le gauche qui monte en avant, et qui bientôt se trouve là-haut vers le plafond tendu, pendant que le bras droit est en bas le long du corps. Vous repartez donc sans arrêt, de sorte que, alternativement, vous avez à la verticale le bras droit, le bras gauche. Le bras droit, le bras gauche, le bras droit encore, bien, le bras gauche ensuite, le bras droit puis le bras gauche. Levez le droit, levez le gauche encore, levez le droit c'est bien, puis le gauche. Levez le bras droit, levez le bras gauche tendu, levez le bras droit un peu plus vite maintenant. Le vent souffle plus fort, le moulin tourne plus vite, c'est tout à fait normal. Et très vite vous dessinez vos cercles. À la verticale, le bras droit, le bras gauche, le bras droit puis le gauche, le bras droit, le gauche encore. Et une dernière fois, le bras droit, puis le bras gauche. Et c'est tout, le moulin avant maintenant peut s'arrêter.
Merci au professeur Robert Reynaud. Après son moulin avant, place à la grande boucle, voici l'histoire du dimanche soir. Affecté dans un régiment cycliste d'infanterie légère, le fantassin italien Ottavio Botechia a été fait prisonnier 3 fois pendant la Première Guerre mondiale et 3 fois il s'est évadé, devenant un coutumier de l'échapper. Une fois de retour de chez lui, en 1918, ce modeste maçon du Frioul a pris goût à la bicyclette et décide de se lancer dans la compétition cycliste. Repéré par Henri Pélissier, immense champion français des années 20, Botechia intègre son équipe et participe à son premier Tour de France en 1923 à l'âge de 28 ans. L'année suivante, Albert Londres, journaliste engagé par le Petit Parisien pour couvrir la course, assiste au triomphe de Botechia.
L'Italie est sportive, on le vit bien à la frontière. L'Italie était venue acclamer Botechia. Botechia n'était pas là. 20 Italiens m'arrêtèrent dans mon élan et me sommèrent de leur dire ce que j'avais fait de Botechia.
Botechia, il porte le maillot jaune. Et on n'a pas vu de maillot jaune. Il n'y a pas de maillot jaune. Il est où, Botechia? Il est où, le maillot jaune? Il est où, le maillot jaune? Alors je répondis, il est mort. Et ce n'est qu'à la faveur de la consternation que je pus m'échapper. Botechia n'était pas mort. Il avait changé de maillot. Et pourquoi? Pour éviter d'être porté en triomphe et de perdre la course. Et la figure, demanda Bélanger. Moi, avec la poussière, on n'a plus de figure, répondit Botechia.
C'est un spectacle de Nicolas Lormeau, mis en scène à la Comédie Française. C'est Les Forçats de la Route d'Albert Londres, adapté par Lormeau sur scène. C'est un spectacle que je vous encourage à aller voir, c'est extraordinaire. Fabien Archambault, je rappelle que vous êtes historien de l'Italie. Ottavio Bottecchia est donc le premier coureur italien à gagner le Tour de France en 1924. Pour commencer, Fabien, quel sens a cette victoire dans l'Italie déjà fasciste du début des années 20?
Alors, il faut replacer ça dans le contexte du sport des années 20. Donc, c'est le moment où les sportifs ne sont plus des compétiteurs individuels, mais deviennent des représentants d'une nation. Donc, pour l'Italie, qui est un pays qui se vit comme une nation prolétaire, la question, c'est comment rivaliser avec les grandes puissances européennes. Alors, il y a l'escrime, qui permet de lutter contre la France, mais c'est plutôt un sport aristocratique. Il y aura le football dans les années 30, avec l'Autriche, l'Angleterre, surtout l'Autriche pour l'Italie, l'ancienne puissance occupante. Mais c'est un sport de classe moyenne urbaine, plutôt de la bourgeoisie, on va dire. Et donc, il reste le cyclisme. Il y a un Tour d'Italie qui existe depuis 1909.
Le Giro.
Mais le problème, c'est que les étrangers ne viennent pas en Italie. C'est un sport professionnel, les primes sont pas assez élevées. Et donc, pour montrer ses qualités, il faut franchir les Alpes et donc aller sur la grande scène cycliste mondiale, européenne, on va dire, à ce moment-là, qu'est le Tour de France. Et celui qui y va représente bien l'Italie du moment. C'est une Italie rurale, de paysans pauvres, voire très pauvres, parce que Bottecchia vient vraiment d'une famille... c'est-à-dire que le vélo, il le découvre à l'armée, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que dans sa vie, on n'avait même pas d'argent pour s'acheter un vélo. C'est une Italie meurtrie par la guerre, depuis 1915, et ils ont tenu dans les tranchées. Donc, il y a voilà ces paysans acharnés au travail, patriotes, qui ont tenu et qui veulent s'en sortir, y compris par l'émigration. Et d'ailleurs, Bottecchia passe quelques années, enfin, c'est ces immigrés saisonniers qui viennent en France louer leur force de travail. Lui, c'est vers Clermont-Ferrand, je crois, qui passe plusieurs années.
Éric Fottorino, on l'a entendu dans l'extrait là, interprété par Lormeau d'Albert Londres, ses supporters italiens sur le bord de la route, l'enthousiasme italien. C'est vrai que ce sport, ce vélo, l'objet, le cyclisme est ancré dans la culture populaire italienne depuis très longtemps. Et on sent l'enthousiasme populaire au bord de la route dès 1924.
Oui, bien sûr. Plus tard, il y aura le fameux Vittorio De Sica, le voleur de bicyclette. On voit, on attache justement le vélo au travail. Et quand on n'a plus de vélo, on n'a plus de travail. Mais Bottecchia, c'est vrai qu'il préfigure Coppi d'une certaine manière, même physiquement. C'est-à-dire qu'on peut trouver chez Bottecchia ce côté presque ascétique, presque maladif, des joues creusées, de ce teint de plâtre, et puis d'un destin. Parce que c'est curieux que dans cet extrait, on parle de la mort de Bottecchia, parce que effectivement, il va gagner non seulement en 24, mais en 25. On peut dire qu'il est le premier campionissimo.
Deux Tours de France à la suite, en
même effet. Même s'il y a eu Gérard Dingot qui a pas gagné le Tour, mais qui a été un grand champion aussi italien. Mais il y a ce mystère, d'une certaine manière, de sa mort, qui peut-être fait la boucle entre Bottecchia et Pantani, d'une certaine façon.
Il va mourir en 1927, oui. Bottecchia, très vite, après ses deux victoires dans le Tour de France. Une mort assez étrange. Il est retrouvé inanimé au bord de la route après un entraînement, mais beaucoup de mystères entourent cette mort. Albert Londres, à l'époque, avec beaucoup de journalistes, laisse à penser que c'est un crime politique pour ses positions antifascistes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mort?
Oui, alors, je vais vous dire, quand j'étais gamin, que je me suis nourri de ces histoires de cyclistes, alors qu'évidemment, je ne les avais pas connues, je me souviens, dans Miroir du cyclisme, d'avoir lu La mort de Bottecchia, où on racontait qu'un paysan, un vigneron, au soir de sur son lit de mort, s'était accusé d'avoir vu ce coureur, il n'avait pas reconnu Bottecchia, lui grappiller, lui piquer quelques grappes de raisin, qu'il avait envoyé un caillou, qu'il l'avait rossé, et que sur son lit de mort, il a dit que c'était Bottecchia. J'ai lu plus tard que ce n'était pas vrai, que c'était pas ça. Mais comme quoi la légende, elle n'est pas seulement sur le vélo, elle est aussi dans tous les à côté de ses champions.
Fabien, un mot sur cette mort peut-être mystérieuse?
Oui, l'histoire de la grappe de raisin ne fonctionne pas parce que c'est au mois de juin. Et donc, le raisin, il faut attendre septembre.
Et oui.
Donc, après, il y a eu plusieurs versions. En fait, c'était des cerises, ce qui était à peu près, ou des figues.
Ça marchait mieux.
Voilà. Alors après, il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que, en fait, depuis une cinquantaine d'années, en fait, tout a été lancé dans les années 70, quand le prêtre qui avait donné l'extrême onction à Bottecchia, avant sa mort, a publié un article où il disait qu'il avait été victime d'une rixe avec une squadra fasciste qu'il avait pris pour cible. Sachant que, un mois avant, le frère de Bottecchia était mort, écrasé par la voiture du chef fasciste local. On sait que Bottecchia n'était pas en odeur de sainteté avec les fascistes quand il était à Clermont-Ferrand. Il fréquentait les cercles
socialiste
ouvriers,
plutôt,
voilà,
oui.
Plutôt socialistes. Et surtout, il refusait de se laisser embrigader dans la propagande nationaliste du régime qui voulait utiliser ses victoires, parce qu'une victoire sur le Tour de France, ça confère une immense popularité à la fois en Italie et en France, en disant « Non, moi, la patrie, je l'ai servie pendant 3 ans. pendant la guerre. Maintenant, je fais du vélo pour gagner du pognon. C'est-à-dire, et il disait vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est un paysan très pauvre. Pour lui, le professionnalisme cycliste a été l'occasion de pouvoir se construire une maison. Et c'est pour ça que sur son lit de mort, en gros, il dit juste j'ai eu un malaise parce qu'il a une assurance vie.
Oui.
Et
qui rapporte
gros,
beaucoup d'argent.
Voilà. Et donc, il faut qu'il soit mort d'un accident sur le vélo. Ce qui est intéressant, au bout du compte, hein, c'est que la gauche italienne, depuis les années 70, essaye d'en faire le pendant sportif de Giacomo Matteotti, qui était le grand leader socialiste italien, qui a été assassiné par les fascistes au mois de juin 1924, trois ans avant. Et donc, voilà, on essaye d'en faire une des grandes figures de l'antifascisme italien. Et ça advient dans les années 80. C'est-à-dire au moment où la société italienne s'interroge sur son passé fasciste, au moment où le fascisme est réhabilité par certains historiens notamment.
Éric Futorino, vous le disiez, Bottecchia ouvre la voie aux autres, notamment au suivant, Gino Bartali, qui va être le grand champion italien des années 30, 40, 50 même. Il va gagner un premier Tour de France en 1938, puis un second 10 ans plus tard en 1948. Un personnage à la fois fascinant, complexe, Gino le Pieux, une Italie catholique, conservatrice, en même temps Gino le Juste, qui a protégé et sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Bartali en Italie, Éric Futorino?
On l'a su plus tard d'ailleurs,
oui, bien plus tard.
Juste, et notre ami Alberto Toscano lui a consacré un très beau livre.
Absolument.
Mais c'est vrai que Bartali, il incarne encore quelque chose d'assez traditionnel. Je dis ça par rapport à Coppi, qui apparaîtra comme une sorte d'archange moderne.
Bien sûr.
Du vélo, avec la diététique, avec le côté un peu scientifique de la préparation. Bartali, au départ, c'est effectivement le Pieux, Gino le Pieux. Il fume. Il a un mode de vie assez étonnant. C'est vraiment le rémouleur toscan qui a une immense endurance, qui je pense lui aussi ne se laissera pas embrigader non plus hein, dans ses victoires de champion. Il a toujours tenu à distance le régime. Et effectivement, quand même, vous l'avez dit, c'est le seul champion, à ma connaissance, qui va gagner le Tour de France à 10 ans d'écart.
Ce qui est incroyable.
38-48, Le Pieux est devenu Il Vecchio, et on imagine, en faisant de l'Uchronie, ce qu'aurait représenté le palmarès du Tour de France et son palmarès, s'il avait pu courir ces tours qui n'ont pas eu lieu. Voilà, donc il incarne tout ça, et puis après, comme on a eu en France Anquetil et Poulidor sur des registres différents, il y aura vraiment Bartali Coppi, et je crois que les deux hommes étaient finalement assez amis. J'ai lu des choses assez étonnantes là-dessus, ils ont fait des spots même de télévisés ensemble, ils jouaient ensemble, etc. Mais sur le vélo, il y a des passes d'armes extraordinaires entre eux.
Pour donner raison à ce que vous venez de dire, Éric, on va écouter justement un son d'archive où, à la fin du son, Bartali parle de Fausto Coppi.
Fausto Coppi, né en 1919, mort en 1960, des suites d'une maladie tropicale, record du monde de l'heure en 1942, deux fois champion du monde de poursuite, deux Tours de France, cinq Tours d'Italie, 3000 ans San Remo, 5 Tours de Lombardie, champion du monde sur route. C'est également l'un des plus grands grimpeurs de tous les temps. Fausto déchaînait sur son passage une adoration quasi religieuse. Un point commun, tout le monde l'admirait. Le dieu Coppi avait reçu du ciel tous les dons, la classe, la générosité et du diable tous les drames. Son frère Cerse tué en course, ses ennuis conjugaux et le drame de sa disparition après 15 ans d'une extraordinaire carrière. Coppi était modeste, ce n'était pas le cas de Gino Bartali.
Mais non, Coppi était un garçon comme moi, normal, un fils de paysan, de gens qui travaillent à bicyclette ou dans les champs. Et tout ce qu'on a pu raconter est faux. La preuve, la dernière année qu'il devait courir en 59-60, Coppi m'a demandé, Gino, tu me prends dans ton équipe? Mais regarde Fausto, je prends seulement des jeunes de 20 ans. Parfait, puisque j'en ai 40, tu me payes double et je viens avec toi.
Génial Bartali. Fabien Archambault, un mot sur cette dualité, sur ce diptyque, sur ces deux frères, Bartali, Coppi. Qu'est-ce qu'ils incarnent? Qu'est-ce qu'ils racontent de l'Italie dans leur opposition et dans leur ressemblance aussi?
C'est d'abord une opposition politique. Alors, en fait, qui est largement fantasmé et imaginaire, mais il n'empêche que ça finit par avoir des incidences sur la réalité, sur la perception qu'ont les gens de l'affrontement entre ces deux champions. Bartali, en fait, c'est une construction de l'Église catholique. Hein. C'était pour, en gros, faire pièce aux héros sportifs fascistes type Primo Carnera, le boxeur, la violence pure, où on veut anéantir l'adversaire. Bartali, c'est le grimpeur divin, l'archange de la montagne, donc avec l'idée que le cyclisme, c'est une ascèse chrétienne. Mm-hmm. On va vers les cimes, la foi peut renverser les montagnes, donc qui mieux que Bartali peut le faire. Et donc après, dans l'après-guerre, avec le début de la guerre froide, disons que le mouvement catholique met le paquet sur Bartali. Le pape en parle dans son discours, c'est-à-dire qu'il ouvre la campagne électorale pour les élections législatives de 48 en disant « Prenez exemple sur votre Bartali, qui est le meilleur militant de l'action catholique ». Et face à ça, l'Italie, l'opposition, la gauche, que ce soit les communistes ou les socialistes, c'est pas que Coppi soit dans leur camp, parce que Coppi est en gros un apolitique. Le Parti communiste lui demande d'être candidat pour lui aux élections de 48, mais en gros il va toujours du côté de celui qui est au pouvoir, donc il l'appelle à voter pour la démocratie chrétienne. Mais comme il est moins militant que Bartali, la gauche en fait son champion qui permettra de vaincre symboliquement Bartali et donc la démocratie chrétienne. Bartali, le De Gasperi du cyclisme. Et donc c'est aussi ça l'immense popularité de Coppi, c'est que toute la gauche italienne, enfin tous ceux qui ne sont pas catholiques, le camp laïque, se reconnaît en lui, et c'est accentué dans les années 50, oui, avec cette histoire de la Dama Bianca. Donc il a une aventure extra-conjugale avec Giulia Occhini, je crois. Et donc ce qui lui vaut d'être vilipendé par l'Église, qui accentue cette...
Il est libertin et mécréant.
Voilà, c'est-à-dire que... et Bartali devient l'Italie bigote, dévote, le passé, alors que lui représente l'avenir et la modernité.
Éric Fotorino, j'en appelle à la sensibilité de l'écrivain. Bottecchia, qui meurt dans des conditions particulières, Coppi, qui va aussi mourir prématurément de la malaria, je crois. Pantani, vous l'évoquiez. Le cyclisme italien est quand même aussi associé à une sorte de dramaturgie, à une tragédie, au pays de l'opéra, par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une histoire de souffrance et de tragédie, le vélo en Italie également.
Oui, c'est vrai. Ils sont d'abord issus de milieux très modestes. Je ne sais pas si Dieu leur a tout donné, mais au départ, ils n'ont pas grand-chose. Mm-hmm. Et moi, je me suis souvent attaché à l'histoire de Fausto Coppi. Déjà, ce prénom, Faust, il y a quelque chose de diabolique, un pacte, on ne sait pas lequel, mais en tout cas, qui est terrible. Et puis, il y a des croyances. Je me souviens d'une histoire assez incroyable qui concerne Bartali face à Coppi. Bartali se demandait comment marchait Coppi. Quelquefois, quand Coppi allait aux toilettes, il allait derrière, il regardait dans les poubelles, il fouillait, etc. Et un jour, il s'est rendu compte que lorsque Coppi était en difficulté, il avait une veine qui gonflait derrière le genou. Et donc, il avait chargé ses équipiers de surveiller la veine. Et quand quelqu'un, un de ses équipiers à Bartali disait « il a la veine », alors là, c'était pas de veine, mais Bartali attaquait. Ouais. Donc il y avait des croyances. Après, il y a Malaparte qui a écrit évidemment sur Coppi en disant que finalement c'était un homme sans Dieu, qui ne croyait qu'en lui. Et il croyait en quoi? Il croyait en un corps complètement difforme, en fait, avec des jambes démesurées, un torse assez court, mais avec deux bonbonnes d'oxygène à l'intérieur qui lui donnaient une puissance dans les reins, qui compensait aussi la faiblesse relative des mollets. Donc c'était une sorte, on disait c'est un échassier, c'est un drôle d'oiseau. Et donc Coppi était terrestre et céleste en même temps. Et c'est vrai que cette dame blanche, ça a divisé l'Italie. Le pape n'a pas voulu bénir un peloton un jour parce qu'il y avait Coppi dedans. Il a fait naître cet enfant en Argentine, Faustino. Donc c'était quand même terrible. On avait l'impression qu'effectivement quelque chose d'impact s'était noué et s'était dénoué. Donc après, la dramaturgie de Coppi, elle est quand même très singulière. Il y a la mort de son frère. Quand on voit les photos de Cerce, on pense au mot de Blondin à propos des Bobets en disant l'homme au masque de frère, parce qu'il se ressemble absolument. Donc il est complètement ravagé en 51. Coppi, on voit les photos, il court pas. Enfin, il court, mais il est pas là. Et puis, il y a évidemment ce drame familial. Et puis, cette course qu'ils vont faire en Afrique avec Gemignani, ils sont quelques-uns. Gemignani ramène comme lui la malaria. Il est soigné à Clermont-Ferrand, mais on détecte bien la malaria. Et Coppi, on croit que c'est une mauvaise grippe. Et puis, finalement, il va mourir à peine 40 ans. Donc, effectivement, c'est du tragique. Sa vie commence tragiquement. Il est très pauvre. Il prend un vélo dont les roues sont tellement énormes qu'on dirait les bouées du port de Gênes. Donc, et avec ça, il arrive à larguer tous les gars qui ont des beaux vélos, etc. Donc, il est extraordinaire. Et une dernière petite anecdote, allez-y, parce qu'elle concerne ma famille. Ma famille Fotorino vivait en Tunisie et mes grands-parents ont commencé à arriver en France dans les Pyrénées dans les années 50. Et ma grand-mère a vu passer Coppi dans les Pyrénées en 52 et elle a éclaté en sanglots. Elle a été tellement frappée par cet homme qui était comme un gisant debout malgré tout, ah oui, comme s'il avait été battu, il était blanc. Et ma grand-mère, quand j'ai fait des petites courses de vélo qui n'avaient rien à voir avec le tour, elle ne venait jamais parce qu'elle me dit « non, je vais pleurer comme quand je voyais Coppi ».
la famille Fotorino.
Je voulais pas faire pleurer ma grand-mère.
Évidemment. On va faire une pause musicale avec un hit de la variété italienne, Paolo Conte, qui célèbre Hector sur un vélo, le chevalier fervent, sans peur et sans reproche. Voici Bartali par Conte.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz.
L'œil du tigre.
24 luglio 1949. Fausto Coppi entra nella leggenda. Trionfa al Tour de France davanti a Gino Bartali.
Philippe Collin
è il primo corridore nella storia del ciclismo a vincere contemporaneamente sia il Giro d'Italia sia il Tour de France nello stesso anno. Una vittoria che segna per Coppi la definitiva consacrazione internazionale.
Sur France Inter.
En 1949, Fausto Coppi réalise l'exploit du doublé Tour de France plus Tour d'Italie, un Giro suivi au jour le jour par Dino Buzzati, une passe d'armes entre Coppi et Bartali qui a donné lieu à un texte magnifique où l'auteur du Désert des Tartares compare les deux champions à Achille et Hector, l'onction de la mythologie. Quand arrive le Tour de France 1950, personne n'imagine alors le coup de théâtre que les cyclistes italiens provoquent à l'arrivée de la 11e étape entre Pau et Saint-Gaudens.
Dans l'étape Pau-Saint-Gaudens, dès les premiers lacets du col d'Aubisque, Lambertini et Ridolfi veulent fausser compagnie à leurs camarades. Mais en haut du col, à 1708 mètres d'altitude, c'est Robic qui passe le premier. Bartali numéro 1, Bobet, Oker, c'est Robic à l'assaut du Tourmalet. Mais Magny conduit un peloton et à Saint-Gaudens, devant Bobet et Oker, Gino Bartali remporte la victoire. Magny devient leader, mais des incidents se sont produits et les Italiens décident d'abandonner le tour.
Fabien Archambault, je rappelle que vous êtes historien de l'Italie. Il faut commencer par rappeler à nos auditeurs qu'entre les années 30 et les années 60, pour résumer, le Tour de France se court par équipe nationale. On est belge, on court avec les Belges, on est italien, on court avec les Italiens. Et donc, quand on dit tous les Italiens ont quitté le Tour de France en 1950, c'est la Squadra, donc l'équipe italienne qui s'en va. Ça, c'était pour un préambule. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils furax en 1950? Pourquoi abandonnent-ils tous le Tour de France à Saint-Gaudens?
C'était tout simple. C'est que les spectateurs, dans un accès de chauvinisme exacerbé, ont tout fait pour empêcher les Italiens de gagner. Alors, il faut replacer ça dans le
Les spectateurs français.
Français, bien sûr. Pourquoi? Alors, l'idée de passer le tour en équipe nationale avait été voulue par l'équipe, enfin par l'auto à l'époque, et reprise par l'équipe, l'organisateur de la course, pour faire gagner les Français. Le problème, c'est qu'en 48, Bartali triomphe sur le Tour de France. En 49, c'est Coppi. Donc, ça fait deux ans que les Italiens gagnent. En 1950, l'équipe a décidé que ce seraient les Français qui gagneraient. Donc, pour comment on fait? On prépare un parcours qui sera un parcours où il y a moins de montagnes, puisqu'on craint Coppi, avec un tour plutôt en plaine, enfin, où la part de la plaine est revue à la hausse par rapport à la montagne. Problème, Coppi se blesse avant le Tour de France, il est remplacé par Fiorenzo Magni, qui est un rouleur, qui est très bon contre la montre.
Donc très bon en plaine, du
coup. Et donc très bon en plaine. Et donc, en fait, le plan échoue, et tout le début du tour, en fait, l'équipe commence une campagne de presse assez agressive contre les Italiens sur le thème « Regardez la tactique, c'est une tactique de suceur de roue ». Alors qu'en fait, ce que font les Italiens, c'est qu'ils contrôlent la course. Il y a des souvenirs, donc l'équipe rappelle qu'en 49, l'année d'avant, au Tour de France, qui passait en Italie, au Val d'Aoste, les spectateurs italiens avaient, certains spectateurs italiens avaient lancé des pierres sur les coureurs français. En fait, on sait que c'était des militants néofascistes qui protestaient contre l'annexion de Tende et de Brigue au traité de paix de 47 par la France, qui, il y a certains Valdotins qui voulaient l'indépendance. Donc, en gros, on voulait marquer son territoire. C'était pas les Italiens, c'était les militants néofascistes italiens. Mais l'équipe fait monter la sauce. Et donc, plus on approche des Pyrénées, qui sera l'heure de vérité de ce tour-là, plus les spectateurs sont agressifs avec les Italiens. Et ce jour-là, dans cette étape-là, déjà sur le Tourmalet, on jette du sable à la figure des Italiens, on leur crache dessus, on les insulte, on leur lance des pierres. Et le plus grave arrive quand Bartali, donc qui fend une foule hostile, qui se dit qu'il peut pas continuer tout seul, parce que s'il arrive tout seul en haut du col d'Aspin, il craint le pire. Donc il reste avec Robic et Bobet, qui le protègent.
Deux Français, donc. Voilà.
Et à 300 mètres de l'arrivée, la voiture de la course lui fait une queue de poisson, donc il manque de tomber dans le ravin. Il renverse les Bobet et Robic qui étaient à côté, et là, des spectateurs le frappent. Lui prennent son vélo et veulent pas lui rendre son vélo. Et donc, Bartali se bat pour récupérer son vélo. Et donc, en gros, c'est l'idée que la coupe est pleine, que si on met pas le holà tout de suite, ça va mal finir. Et donc, il décide. Alors après, on a beaucoup interprété. Voilà, c'est que Magni, qui était un militant, un ancien fasciste, qui gagne le tour de le maillot jaune ce jour-là, parce que les Français, Robic et Bobet, en ralentissant, ont permis à Magni d'arriver avant eux, enfin de rattraper le temps, etc. On frôle, enfin dans les années 30, on s'aurait débouché sur un incident diplomatique. Donc là, vous avez les deux gouvernements qui ordonnent à la presse de faire des articles qui disent que c'était un excité, donc c'est quelqu'un avec une chemise blanche qu'on ne retrouvera jamais.
Un acte isolé.
Voilà, un acte isolé. Mmh. Et là, il y a une Italie qui se sent inférieure à la France et qui, pour elle, c'est très important de gagner le Tour de France. De gagner chez les Français.
Éric Fautorino, on sent qu'on est dans l'immédiat après-guerre.
Hein,
oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Et Fabien a une grande maîtrise de ce sujet. mais c'est vrai qu'on sent qu'on est dans l'immédiat après-guerre et que les tensions nationales sont âpres, que chacun veut redorer un peu son blason. Robic, qui a gagné le Tour de la Libération en 1947, était une manière aussi pour les Français de célébrer un sentiment national. Bartali et Coppi font aussi peut-être effacer un peu Mussolini. On sent que c'est une manière de retrouver un peu de prestance nationale après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, ce que votre question, elle résonne encore aujourd'hui. Oui. Pourquoi le Tour de France a lieu cette année? On aurait pu dire avec l'épidémie, mais c'est parce que la France est toujours la France quand il y a le Tour de France, elle est moins la France quand il n'y a pas le Tour. Et si vous regardez les années où il n'a pas été organisé, c'est évidemment les années de Première Guerre mondiale. Il y a au total, je crois, 11 éditions qui n'ont pas eu lieu, si on ajoute sur les deux guerres. Et quand Robic va gagner le Tour 47, c'est comme si la France revivait, de la même manière que les Tours d'après la Première Guerre mondiale. Le parcours du Tour est très important parce que il va jusqu'aux limites, même jusqu'aux frontières. Il passe en Allemagne, de fait, il passe en Alsace, en Lorraine, et il faut des autorisations pour aller à Metz, etc. Donc on voit bien, et quand ces régions ont été reconquises, le Tour est heureux de pouvoir repasser là pour montrer que c'est, voilà, c'est la France, et le Tour de France, c'est la France. Après, si vous voulez, c'est vrai que en 48, lorsqu'il y a l'attentat contre ce dirigeant communiste Tagliotti, De Gasperi va demander à Bartali s'il est capable, s'il pense qu'il peut gagner le Giro, parce que Sinon, il ne répond pas de la stabilité du régime et de la paix sociale et politique en Italie. Donc Bartali, en gagnant le tour 48, d'une certaine manière, éteint probablement un feu qui se serait allumé sinon plus fortement.
Alors laissons derrière nous Gino Bartali et Fausto Coppi et passons à l'époque suivante, les 60s, avec un immense champion dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui, c'est vrai, vainqueur du Tour de France 1965.
Félicien Gimondi remporte le premier Tour de France de sa carrière, le premier qu'il a couru aussi, et il rejoint en cela Fausto Coppi et Jacques Anquetil, les deux seuls coureurs ayant gagné le premier Tour de France qu'ils disputaient. Gimondi tout en souplesse, on oserait presque dire aussi tout en grâce, en champion du style moderne, a lutté jusqu'au dernier mètre, c'est fini, il a gagné.
Éric Fotorino a reconnu la voix de Chapat, évidemment, Robert Chapat. Éric, un mot sur Gimondi, c'est vrai qu'on a un peu oublié ce nom et pourtant on le définissait comme un prélat sur son vélo, une classe folle, une allure inouïe. Qu'est-ce qu'il vous inspirait? Qu'est-ce qu'il vous inspire, Felice Gimondi?
À la fois, j'ai beaucoup admiré Gimondi, je l'ai beaucoup plaint parce qu'il a eu un drame dans sa vie qui s'appelle Eddy Merckx. Il n'est pas le seul, mais enfin, il y en a eu beaucoup. Mais lui particulièrement, parce qu'effectivement, il devait pas courir ce Tour de France. Et puis, un équipier de la Salvarani, je crois son équipe, s'était blessé au genou, un ménisque, et finalement, il prend le départ. Il prend le départ et il va gagner ce tour, il va dominer un autre malchanceux d'une certaine manière, lui les moins, qui est Raymond Poulidor. On disait, ça y est, Anquetil, c'est fini.
Oui.
Enfin, c'est l'heure de Poupou. Et Poulidor tombe sur un os qui s'appelle Gimondi. Donc, Gimondi est un très beau coureur. Il va gagner après des Milan-San Remo, il va être champion du monde, il va gagner de très belles courses, le Giro, bien sûr. Mais il fait partie de ces coureurs qui avaient un gros moteur, mais face à Eddy Merckx, il ne pouvait plus rien faire. Et donc, on a un peu oublié parce que, précisément, il y a eu un grand champion.
Dans l'ombre d'Eddy Merckx, évidemment. Fabien, un mot sur Gimondi. Qu'est-ce qu'il incarne, lui, de l'Italie? C'est quelle Italie, Felice Gimondi?
C'est l'Italie du miracle économique et justement en creux, on voit l'Italie du miracle économique, c'est que les années 60, c'est le moment où le football supplante le cyclisme comme grand sport national des Italiens. Donc voilà, les classes populaires, elles rêvent plus de vélo dans les années 60, elles rêvent d'avoir une voiture. Et donc petit à petit, l'intérêt pour le cyclisme décroît et Gimondi en fait les frais, c'est-à-dire que c'est un très grand champion comme ses prédécesseurs, mais sauf que ça ne veut plus dire autant de choses pour la société italienne que de gagner le Tour de France.
Alors, Gimondi gagne en 65. Il va y avoir une sorte de période de vache maigre pour gagner un Tour de France. Il y aura des grands champions. Il y aura Claudio Capucci, Gianni Bugno, Mario Cipollini. Mais il n'y a plus de vainqueur du Tour de France. On va devoir attendre pour les Italiens 1998. Et là, c'est la victoire d'un trompe-la-mort.
C'est un pirate de la route qui dévale les montagnes et dévalise ses adversaires. Flibustier des temps modernes, Pantani est le héros que l'Italie attendait depuis Gimondi, dernier vainqueur italien du Tour en 65. De la classe et du style, celui d'un grimpeur léger comme on n'en fait plus. Pantani soigne son look, crâne rasé, bandana et regard d'ange. Il fait le bonheur des petits et des grands. Sur un vélo, seul compte l'homme et son courage. C'est Pantani qui le dit et il sait de quoi il parle. Champion du monde des chutes graves et des gadins en série, Pantani s'est tout cassé. Le pouce, la clavicule et le tibia péroné. Mais Pantani ressuscite. Et cette année, au mois de mai, il gagne ce Tour d'Italie qui n'avait jamais voulu s'offrir à lui. Un Tour d'Italie, peut-être un Tour de France, un Tour de force. Pantani en est sûr, les chemins de croix mènent bien au paradis.
Marco Pantani, le pirate. Éric Fotorino, c'est un coureur qui est très touchant, je trouve, parce que il est au confluent de deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un champion à l'ancienne, téméraire, fort en gueule, et en même temps, c'est aussi une période où on va changer. 98, il gagne le Tour de France, c'est l'affaire Festina.
Exactement.
La grande affaire du dopage. Le Tour de France ne s'est vraiment jamais remis de ça. Il y a un grand tour l'an passé qui a séduit les foules, mais on sent qu'on traîne ce boulet de l'affaire Festina. Mais Pantani est là au confluent de ces deux siècles, on va dire, et il est très touchant, je trouve.
Oui, vous
Pantani.
Avez raison, c'est un champion à la fois anachronique, un peu mélancolique.
À la mort tragique, là encore.
Oui, 34 ans. À Rimini, donc dans les lieux de Fellini, on a l'impression de, je sais pas, d'un supplément à Marcord ou à je ne sais pas quel film, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'enfance éternelle chez Pantani. Hein. Elefantino, je crois qu'on l'a appelé à un moment donné aussi. Il y a le pirate, bien sûr, le bandana. Mais si vous voulez, Pantani, c'était l'idée que dans le Tour de France, qui avait beaucoup perdu de sa superbe, le seul lieu où quelque chose encore pouvait se produire, c'était la montagne. La montagne dans le Tour de France est arrivée en 1910, elle n'est pas arrivée tout de suite, et le Tour est né une deuxième fois avec la montagne. Donc à chaque fois qu'il se passait une échappée, un baroud d'honneur, un grand raid, comme on peut en faire des Virenques aussi, le cœur des foules rebattait. Et Pantani, il réveillait finalement un peu toute ce... J'allais dire, c'était comme le général des armées mortes, il réveillait Coppi, il réveillait Bartali, il réveillait cette espèce de rêve un petit peu disparu, évaporé, d'un héroïsme du cyclisme, avec effectivement probablement toutes les substances qui allaient avec à cette époque.
Fabien Archambault, je reviens avec ma question miroir. Qu'est-ce qu'il incarne Pantani dans cette Italie des années 90? Qui est Marco Pantani pour l'Italie?
Alors c'est d'abord un champion immensément populaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les chansons, il y a un nombre de chansons consacrées à Pantani qui est très impressionnant, hein, autant Coppi. Et en fait, voilà, Pantani réactive le mythe de Coppi, donc il y a un peu un aspect nostalgique, c'est-à-dire toujours dans la biographie de Pantani, hein, il y a l'idée de... c'est un fils de... Enfin, il vit à la campagne, tout petit, on lui donne sa première bicyclette, et il fait ses premiers pas comme ça, donc un cliché. Il y avait la même chose pour Bettecchia, la même chose voilà pour Coppi. Et il y a l'idée de un uomo solo, un homme seul. C'est-à-dire que dans la grande légende de Coppi, il y avait l'idée de cette
solitude
et qui était un commentaire de la radio italienne, de la RAI, en 49 quand il gagne l'étape Cuneo-Pinerolo, où il y avait la neige, donc les retransmissions avaient été interrompues. Et donc toute l'Italie attendait de savoir qui de Coppi ou de Bartali allait passer le col en premier.
Mmh.
Et le commentateur avait dit « Un uomo solo al comando, porta la maglia bianco azzurra, si chiama Fausto Coppi ». Et une phrase qui est restée dans l'imaginaire collectif italien, pour la gauche notamment, mais cette idée « Uomo solo al comando ». Le commentateur avait été formé sous le fascisme, donc... Un homme seul aux commandes, évidemment, pour lui, c'était la rhétorique fasciste.
C'était le Duce, plutôt.
Mais c'est aussi un homme seul qui attaque tout seul. Et c'est un homme seul qui meurt dans sa chambre d'hôtel à Rimini, de dépression, d'overdose. Et donc, il y a une partie des journalistes qui commentent en disant c'est cette jeunesse qui sait plus à quel sein se vouer, comme la société italienne ne sait plus à quel sein se vouer. Et d'ailleurs, elle va se donner à Berlusconi. Elle s'est déjà donnée à Berlusconi, qui, en gros, ne sait plus trop quel est le sens de la vie au-delà de la victoire.
Alors, pour être tout à fait complet et pour finir, il y a un dernier vainqueur italien en 2014, Vincenzo Nibali. Alors là, très peu connu, chez nous en tout cas chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs? Est-ce qu'on est effectivement au bout du bout, que le cyclisme, finalement, en Italie, a perdu cette passion populaire et que Nibali, qui est quand même un vainqueur du Tour de France, bien sûr, n'est pas vraiment présent dans la mémoire collective des Italiens, Eric?
Non, alors je connais moins pour les Italiens pour Nibali, mais Nibali, effectivement, gagne le Giro, gagne le Tour de France, et c'est un vrai champion. Moi, j'aimerais avoir son palmarès. J'ai un nom italien, je regrette vraiment de ne pas être dedans. Mais en fait, je pense qu'il, lui, il est victime d'autre chose aussi. C'est ce Tour de France qui, pendant 7 ans, va rester sans vainqueur. Puisque on a effacé les tablettes comme si ça n'avait pas existé, Lance Armstrong. Donc, après, il y a eu des vainqueurs qui ont été déclassés. Enfin, il y a eu un moment du Tour où finalement gagner le Tour, c'était quand même plus soulever des doutes que de susciter de l'admiration. Et je pense que Nibali, moi, je le vois bien à mon échelle, c'est que j'ai pas vraiment vu.
Mais moi non plus.
J'ai bien aimé ses attaques, quelques étapes qu'il a gagnées comme ça en baroudeur. Mais c'est vrai qu'il ne s'inscrit pas dans ce Gotha. Vous voyez, à la limite, quelqu'un comme Francesco Moser, qui n'a jamais gagné le Tour, pour moi, c'est le baroudeur, c'est Paris-Roubaix, c'est le record de l'heure, etc. Nibali, je vois moins, et peut-être suis-je injuste d'ailleurs, mais je vois moins.
Fabien, pour terminer, une conclusion rapide, la place du vélo, du cyclisme aujourd'hui en Italie, quelle est-elle?
Ça reste un des grands lieux de mémoire de la société italienne. Bon, il y a Ferrari, il y a le football, et il y a le cyclisme. Parce que finalement, après, ils n'ont pas gagné tant que ça. Finalement, par rapport à l'importance qu'a eu l'équipe d'Italie et les coureurs italiens dans le Tour de France.
7 vainqueurs, enfin plusieurs éditions pour certains, mais 7 vainqueurs, c'est pas énorme quand même, hein, c'est pas beaucoup.
Et paradoxalement, en fait, sans eux, le Tour de France n'existerait pas. C'est après l'abandon de 1950, c'est le populaire qui, dans un article, disait si on veut que ce soit les Français qui gagnent, interdisons aux Italiens de venir, et comme ça, ça se courra sur des routes désertes et tout le monde sera content. Pour les Italiens, ça reste très important. Le cyclisme et le Tour de France en particulier.
Éric?
Ah, je ne sais plus si c'est Jacques Augendre ou Pierre Chani, mais Dieu reconnaîtra les siens, mais qui disait Merckx était le plus fort, mais Coppi était le plus grand.
Voilà. Ce sera les mots de la conclusion de ce soir. Merci à vous deux d'être venus. C'était passionnant de vous écouter l'un et l'autre. Merci infiniment. Je rappelle que vous pouvez lire Zadig, America, Le 1, dont un hors-série.
De, il y a un peloton de revues.
Et il y a un hors-série consacré aux grimpeurs de légende qui est extra, que vous trouverez en kiosque. Toutes ces revues dirigées et créées par Eric Fotorino. Et puis vous pouvez lire tous les écrits de Fabien Archambault, entre autres sur l'histoire du sport. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup à vous deux. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Nostra Fina, titre de cette chanson chic interprétée par Andrea Laszlo de Simone. On continue en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, on cause football anglais. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors cette semaine, on cause du club de Leeds, une usine à tubes.
Absolument. Voilà, la Première Ligue a repris ce week-end, le championnat d'Angleterre de football, et ce club en particulier suscite beaucoup d'attentes, notamment en raison de la personnalité de son entraîneur, le charismatique argentin Marcelo Bielsa. Mais Leeds United se distingue aussi, historiquement, par un soutien populaire très marqué, essentiellement dans le nord de l'Angleterre, et cet engouement se traduit par la sortie fréquente de chansons à la gloire du club, qui sont souvent d'excellente qualité.
Alors qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmatif?
En fait, c'est assez simple. Il y a 7 ans, je rédigeais un livre consacré au lien entre le football et la musique. Pendant cette période, j'ai écouté des centaines et des centaines de chansons dédiées au ballon rond. Et je peux vous dire que la quasi-totalité était, disons, inintéressante ou totalement inécoutable. Mais il y avait des petites exceptions, des petits joyaux. Une dizaine de chansons que, encore aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à écouter. Et étonnamment, deux d'entre elles évoquent Leeds United. Le plus récent de ces deux titres a été signé par une Américaine, Amanda Palmer, une ancienne punk reconvertie dans le cabaret décadent. En 2008, elle a composé un single intitulé « Leeds United ». Qui commence comme ça.
We watch you, your expert double X's. It's just like you to paint those white fences. It's so polite, it's so polite. It's offensive, it's offensive.
Alors ce titre a été inspiré par Ricky Wilson, le chanteur du groupe de rock anglais Kaiser Chiefs, qui avait offert à Amanda Palmer un maillot de Leeds United. La chanteuse a porté cette tunique en concert, c'était un peu comme un porte-bonheur, avant de l'égarer, ce qui a suscité chez elle une déception terrible, qu'elle a racontée en musique dans le morceau qu'on vient d'entendre. Alors dans le refrain, Amanda Palmer clame qu'elle est so excited quand elle pense à Leeds United.
Ça rime, dis donc.
Ouais. Le club est également célébré à travers ses supporters qui sont présents en nombre dans le clip accompagnant cette chanson. Une vidéo d'ailleurs très réussie, influencée par David Leitch, que j'encourage tous nos auditeurs à regarder en ligne.
D'ailleurs, Marco Mutel, qui est le metteur en nom de cette émission, m'a dit « Va regarder le clip, c'est absolument extraordinaire ». Donc c'est bien noté. Alors, quelle est la seconde chanson dont tu voulais nous parler ce soir ?
Alors, elle s'appelle « Strachan ». Elle date de 1997 et elle est l'œuvre d'un groupe de rock irlandais aujourd'hui disparu, The Hitchers. Ce titre met en scène une discussion agitée entre un fan de Leeds et sa copine, qui se sent délaissée parce que lui regarde à la télévision un match de son équipe favorite. Alors les paroles alternent entre le récit de cette querelle et le compte-rendu de la rencontre qui se joue en même temps, où brille Gordon Strachan, un opiniâtre milieu de terrain écossais qui évoluait à Leeds au début des années 90 et qui a donc donné son nom à ce morceau. On écoute un extrait.
She waited for the match to start a fight up with me. She said, what's that you're watching? It's a program about art. She said, a program about art. I said, a program about art. And then the greatest midfield artist of them all walked out onto the park. The crowd ran.
Alors on dirait pas comme ça, mais cette chanson est selon moi la meilleure jamais composée sur le football.
Eh ben tiens.
Notamment en raison des paroles que l'on vient d'entendre, qui retranscrivent donc le dialogue entre le héros de la chanson et sa copine. Pour les non-anglophones, je propose une traduction.
Allons-y.
En gros, la copine demande « Hé, mais c'est quoi ce que tu regardes à la télé, là ?» Alors, lui répond, en montrant le match de Leeds United, « Bah, c'est un programme sur l'art, chérie. » Alors, elle réplique, « Ça, c'est un programme sur l'art, mais tu te moques de moi ?» Et lui conclut, « Non, chérie, je t'assure, ça, c'est un programme sur l'art. » Alors, notre héros considère en effet que Gordon Strachan, qu'il voit à l'écran, est un véritable artiste. Cet échange, a priori anodin, soulève une problématique essentielle.
Ça, c'est sûr.
La place du football dans nos sociétés. Peut-on considérer ce sport comme un art, ou tout au moins comme une culture à part entière, considérant son histoire, ses valeurs et ses codes ? Alors, en France, la question fait encore l'objet de débats, mais je peux vous dire qu'elle ne se pose pas pour les supporters de Leeds United.
En effet, un vaste débat français. Le football est-il un art ? Merci beaucoup, Pierre-Étienne, à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Et voilà, cette troisième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri, Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique d'Élise Christophe. Merci à elle. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, bien sûr, mais aussi sur franceinter.fr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec une enquête historique passionnante qui révèle que les liens entre le sport et la politique sont très anciens. Le footballeur et monsieur le maire font bon ménage depuis belle lurette, 1850-1914, les édiles au stade. Un récit passionnant, vous verrez. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.